Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature?
Comment l'entendez-vous, mon frère?
J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Que je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre.
Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve? Monsieur Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi.
Si vous n'y prenez garde, il prendra tant soin de vous qu'il vous enverra en l'autre monde.
Oh, mais enfin, mon frère, raisonnons un peu. Vous ne croyez donc point à la médecine?
Non, mon frère. Et je ne vois point que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire.
Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée?
Bien loin de la tenir pour véritable, je la trouve entre nous une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie, je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre.
Et pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre?
Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose.
Les médecins ne savent donc rien à votre compte?
Si fait, mon frère, ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout.
Non mais faut-il demeurer d'accord qu'en cette matière, les médecins en savent plus que les autres?
Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets.
Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous. Mais nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins.
C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art.
Bon, il faut bien que les médecins croient leur art véritable puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes.
C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent. Et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, n'y met point de finesse. C'est un homme tout médecin depuis la tête jusqu'aux pieds. Un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques. Et qui croirait du crime à les vouloir examiner. Qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile. Et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne à tort et à travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne faut point lui en vouloir de tout le mal qu'il pourra vous faire. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera en vous tuant que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'on a besoin, il ferait à lui-même.
C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin, venons au fait, que faire donc quand on est malade?
Rien, mon frère.
Rien?
Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. La plupart des hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leur maladie.
Mais faut-il demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses?
Mon Dieu, mon frère, ce sont là pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent, et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Et quand vous en venez à la vérité, à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.
Oui, c'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête, hein, et que vous voulez en savoir plus que les plus grands médecins de notre siècle, voilà.
Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler les plus habiles gens du monde, voyez-les faire les plus ignorants de tous les hommes.
Ah, oh, mais vous êtes un grand médecin à ce que je vois, hein. Et je voudrais qu'il y ait ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet.
Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Et chacun, à ses périls et fortunes, peut croire tout ce qu'il lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous. Et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière.
Oh, ça bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.
Ce ne sont point les médecins que Molière joue, mais le ridicule de la médecine.
Bon, c'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon bigot et un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances et d'aller s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre de vénérables personnes comme ces messieurs-là.
Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois qui sont d'aussi bonne maison que les médecins.
Par la mort, nom de diable! S'il n'était que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Voilà, il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, pas le moindre petit lavement. Et je lui dirai, crève, crève, ça t'apprendra une autre fois à te jouer de la faculté.
Voilà bien en colère contre lui.
Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis.
Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours.
Mais tant pis pour lui s'il n'a point recours aux remèdes.
Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal.
Et sotte raison que voilà. Mais tenez, mon frère, ne parlons point davantage de cet homme-là, parce que ça me chauffe la bile, et vous me donneriez mon mal.
Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirai que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Que pour le choix d'un gendre, il ne vous faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte et qu'on doit sur cette matière s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille. Puisque c'est pour toute la vie et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage.